Au nom de la mauvaise foi, de la fausse rumeur et de l'annonce publicitaire, je te baptise journaliste.
Radio Canu, 102.2.
Canu Info.
Gloire au chômage.
Bonjour.
Bonsoir.
Bonsoir.
Et bonsoir.
Et bonsoir.
Et c'est l'heure du
Canu Info.
Du mercredi. Les Canu Info.
Canu Info.
Du mercredi.
Bonsoir. Bah, ça baille dans le studio. Il est 19h passé de 4 minutes et c'est l'heure du Canu Info. Et ce soir, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va faire des petites infos parce qu'on est en petite forme ce soir.
Petite et pour ma part pas passionnante.
Bon voilà. Bon, en plus c'est des petites infos et des infos de merde. Donc si vous avez autre chose à foutre que nous écouter, ben vous pouvez changer de radio.
Non, ben vous pouvez rester parce que de toute façon dans 10 minutes c'est fini.
Voilà. Mais mais sinon ça va être bien. Restez. Donc il y aura des brèves. Ensuite on va parler du RSA. Ensuite. Je vais faire le fil tout seul.
On va parler de Daniel Mermet qui, à la radio ou sur internet, un patron, c'est un patron.
Ensuite, on va parler d'un naufrage qui a eu lieu ce matin dans la Manche.
Et enfin, on finira par la lecture d'un bout du communiqué unitaire contre le SNU.
Et on va commencer par des brèves. Et je crois que c'est toi qui commence par les brèves. Ce qui n'est pas très pratique parce que c'est toi qui lance le générique.
Ouais, donc, en plus, comme j'avais pas le truc, la nappe de brèves, c'est 3.
Et ben hop, si vous voulez, je peux commencer par une brève.
Non, mais je vais commencer. On rappelle qu'à 2 jours des vacances scolaires, il y a toujours 290 enfants à la rue. Et je vais dire ça moi avec mon entrain. Et que les écoles Camus, Berthelot, Renan, Nigretel, Anatole France, Zay, Delorme, Berthelot, Michel Servet, Montaigne, Pasteur, Hepburn, Aubrac, Gerson, Giono, Masset, Charial, le collège Gilbert Dru, qui prend cette année la place de l'école Gilbert Dru, sont toujours occupés.
On n'est pas loin de toutes les écoles de l'académie.
Non, bon, quand même pas, il y en a beaucoup plus, mais ça commence à faire un paquet, ouais. Et bah au suivant, hein, moi j'ai rien d'autre, c'était je vous faisais une petite...
Nos deux brèves s'enchaînent formidablement bien. Et c'est ADT Quart-Monde, la Fondation Abbé Pierre, Emmaüs et la Croix-Rouge qui alertent sur une forte hausse des demandes au 115. Le 115 est saturé, plusieurs centaines de personnes se retrouvent sans solution et la situation est particulièrement tendue en Seine-Saint-Denis. On le rappelle, c'est le département le plus pauvre de France où chaque jour entre 1500 et 2000 personnes ne trouvent pas de solution malgré leurs appels au 115. Les associations craignent également que des ménages déjà fragilisés se retrouvent à la rue avec notamment la hausse des prix de l'énergie qui entraîne par exemple une très forte hausse des charges locatives dans le parc HLM. Des personnes vont inévitablement basculer dans la grande pauvreté.
Et les perquisitions ont été menées hier dans les bureaux du cabinet de conseil McKinsey ainsi qu'au siège du parti Renaissance, le parti de Emmanuel Macron. Ce que le PNF soupçonne fortement, c'est un deal. McKinsey pourrait avoir aidé le candidat Macron à remporter les élections présidentielles et en échange, le gouvernement Macron lui aurait refilé un max de marché public. En gros, à chaque fois qu'un ministre décide s'il bouge un petit doigt, il demande avant à McKinsey comment il faut le bouger. Et la réponse est facturée des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros. On avait déjà les ministres mis en examen pour viol, pour harcèlement sexuel, les histoires de prise illégale d'intérêt, les classiques détournements de fonds, les démissions de ministres qui avaient menti dans leur déclaration de patrimoine. Le Conseil des ministres ressemblait déjà plus à une association de malfaiteurs qu'à un gouvernement. Mais ça s'étale, cette fois c'est le parti et finalement tout le système qui a mené le président des riches au pouvoir qui est maintenant mis en accusation.
Et comme j'avais aussi préparé cette brève mais que vous n'étiez pas concerté, du coup on rappelle que le 31 mars, le PNF avait ouvert une enquête pour blanchiment aggravé de fraude fiscale. Et les 20 et 21 octobre, le PNF avait confié à des magistrats instructeurs une information judiciaire pour tenue non conforme de compte de campagne et minoration d'éléments comptables dans un compte de campagne, et une autre pour favoritisme et recel de favoritisme. Donc ça un peu c'est les termes juridiques de ce que tu viens de dire, mais c'est claquant quoi.
Et du coup, bah, c'est à moi. Alors, moi, j'avais prévu... Alors, ça sent le retour des blagues sur les scissions, après le dernier congrès du NPA. Bon, mais comme je suis vachement dévoué comme chroniqueur, j'ai fait un peu de recherche pour que vous puissiez capter les enjeux qui vont vous permettre d'ouvrir un tout nouveau cycle sur le trotskisme et les scissions. Pour vos petites blagues de Noël, ça changera des blagues racistes de tonton machin et compagnie. Alors, j'avoue que ça a été un petit peu dur de comprendre. Déjà, parce que tout le monde dit pas les mêmes choses. Ils sont pas d'accord entre eux sur pourquoi ils se détestent. Ensuite, parce qu'il y a une partie des choses qui ne sont pas dites, alors ça, ils sont tous d'accord sur le fait qu'il ne faut pas dire une partie des choses en public, et ils le disent même publiquement. Bon, j'imagine que c'est des sombres histoires merdiques, donc on ne va pas en parler.
Ah, je croyais que des choses n'étaient pas dites entre eux, et on sait que les non-dits, quand même, c'est
bah, ce qui alors, non, ça, ça a l'air d'être quand même une grosse partie du problème. Les non-dits, et ça tue ouais, la famille, mais le NPA, est-ce vraiment une famille? Enfin bon. Donc voilà, on va passer les histoires sous le tapis. Mais par contre, ce que tout le monde dit plus ou moins, c'est que depuis plusieurs années, le parti voyait coexister en son sein plusieurs lignes politiques et qu'on n'arrivait plus à les faire fonctionner ensemble, ce qui faisait que des fois, il y avait deux porte-paroles différents qui parlaient à la suite l'un de l'autre et qui disaient à peu près le contraire. Il y a eu le congrès de cette année et c'est ça qui a un peu fait, enfin c'est cette histoire qui a un peu tout fait exploser, parce que en gros lors du dernier congrès la majo
Radio Canu.
Petit problème, c'est ça d'essayer de faire la technique en faisant. Enfin bon, en gros lors du dernier congrès, le congrès de la majo, les Besancenot, Poutou, compagnie ont été mis en minorité. Donc je crois qu'ils ont fait 45% des votes contre 48 pour une autre motion. Et c'est ça concrètement qui risque de mener la scission, l'organisation. Parce que ce que proposait la motion de Besancenot et compagnie, c'était de maintenir la situation actuelle où chacun fait bien comme il veut et puis il y a un grand parti qui réunit tout le monde sans trop qu'on comprenne à quoi ça sert, à part sûrement à peser en faisant du monde pour distribuer les tracts au moment des campagnes électorales. Les autres motions proposées, donc il y avait deux autres motions, une qui a fait 48% et une qui a du coup dû faire 3%, qui proposaient des espèces de manières de régler ces conflits de ligne. Et ben, il se trouve que la majo a pas trop aimé d'être mis en minorité. Et c'est ça, a priori, qui va vous permettre de faire des blagues sur qu'est-ce qui se passe quand il y a deux trotskistes, un parti, qu'est-ce qui se passe quand il y a trois trotskistes, une scission. Et voilà.
Et le championnat de France des économies d'énergie qui vise à récompenser les acteurs publics et privés qui réduisent la consommation d'énergie de leurs bâtiments vient de décerner ses récompenses. Et les deux meilleurs élèves sont...
Radio Canu.
Orange et BNP Paribas. Alors, je sais pas pourquoi il n'y a pas Total.
Ça, c'était de la brève.
Radio Canu. 102.2.
La plus rebelle des radios.
Canu Info.
Et on va parler RSA.
Et donc on va parler en effet RSA. Alors enfin bon, ça me spoil un peu votre histoire, mais c'est pas grave. Ça c'est le problème de devoir annoncer au début des trucs. Alors je pensais pouvoir vous faire un spoil sur la réforme de la retraite, mais il faut croire qu'ils ont réussi à énerver tous les syndicats. Et quand je dis tous les syndicats, je parle même du MEDEF et même, croyez-le, la CFDT. Ouais. Enfin, en tout cas, il faut croire que ça les a un peu refroidis. Ils ont annoncé lundi un report des annonces au 10 janvier, soi-disant pour permettre aux nouveaux présidents et présidentes de parti, on rappelle que LR et Europe Écologie, les Verts, renouvelaient leur direction ce week-end, de prendre connaissance du texte. Alors, il paraît que gouverner, c'est prévoir, mais apparemment, prévoir les congrès de deux partis d'opposition annoncés depuis des mois, c'était trop compliqué. Enfin donc, pas d'annonce pour le... pour la retraite, pardon, avant le 10 janvier. Et donc, c'est là qu'à la place, je vais vous parler d'une surprise. Alors, une surprise que je rangerais plutôt dans la catégorie des grosses surprises de merde, je vais pas vous mentir. Alors, c'est pas une surprise totale, à vrai dire, on aurait dû avoir cette information plutôt début octobre, puis après en novembre. Enfin, ils ont un peu traîné, mais on va pas vraiment leur tenir rigueur vu la réforme de merde qui s'annonce. Donc voilà. Au final, on a eu la liste des départements qui vont participer à l'expérimentation du nouveau RSA. Et là où c'est vraiment une surprise de merde, c'est qu'on a découvert à la dernière minute qu'en plus des 18 départements retenus, donc sur 64 je crois, en plus des 18 départements retenus sur 64, par contre, pardon, il y aura la métropole de Lyon, ce qui ça n'était pas du tout prévu. Les élus métropolitains s'étant bien gardés d'annoncer à l'avance qu'ils avaient eux aussi postulé.
Ah, on est toujours un département test.
Pour tous les tests de merde.
Ouais. Le Linky, on a été test. Le Linky du gaz, on a été test.
Ça, c'est parce que c'est notre côté. On était censé être une métropole de compensation de Paris. Et comme ils ne l'ont pas fait, finalement, ils nous donnent toutes les compensations.
Vous voulez dire qu'on était déjà un département test pour les machins de merde à l'époque de Gérard Collomb?
Ouais.
Mais que là, finalement, Gérard Collomb n'est plus là. Puis que ça n'a pas changé grand-chose.
Ça se trouve, c'était un truc qui n'était pas de la faute de Gérard Collomb. Enfin bon.
C'est ça. Même pour les groupes d'extrême droite, on est vraiment test de partout.
On est test de partout, mais ça c'est parce qu'on est des avant-gardistes. Voilà, alors en 2023, à partir de 2023, il devrait y avoir l'Ins, je ne sais jamais comment on prononce le nom de ce département, l'Aveyron, ce département, les Bouches-du-Rhône, la Côte d'Or, la Creuse, l'Eure, l'Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique, le Loiret, la Mayenne, le Nord, les Pyrénées-Atlantiques, la Réunion, la Seine-Saint-Denis, la Somme, les Vosges, Lyon et les Yvelines, ainsi que donc la métropole du Rhône, qui vont bénéficier de ce super programme.
En fait, c'est à qui est pot?
Bah 13, ça fait pas beaucoup, je crois qu'il y en a 90 de départements. Enfin, c'est ce qu'on nous apprend à l'école en tout cas, même si...
t'as bien retenu.
Même si machin d'émission, Papendiaï d'émission maintenant, c'est... Enfin bon, alors, je vous disais pompeusement au début de mon histoire que gouverner c'est prévoir. J'espère que vous vous en rappelez parce que c'était il y a même pas... Enfin, vous m'avez coupé, c'était plus qu'il y a 2 minutes comme c'était marqué sur mon texte, mais enfin bon, voilà. Alors là, on n'est pas trop bon sur le côté prévoir, quoi. Je vous le disais, l'expérimentation doit commencer à partir de 2023. Et pour l'instant, on ne sait pas grand-chose. Le ministère du Travail, du Plein Emploi et du Bonheur Universel, ou un truc dans le genre, je ne sais plus, a fait savoir que les prochaines semaines marqueront la finalisation du carnet des charges de l'accompagnement rénové qui sera testé en 2023 sur les territoires pilotes. Oui, alors si vous avez un peu suivi le calendrier, enfin le truc comme ça, vous savez qu'on est le 14 décembre aujourd'hui et que donc il reste 2 semaines... Il reste 2 semaines pour atteindre ce fameux 2023, ce qui fait un peu court pour finaliser les documents, l'envoyer aux gens en charge de l'appliquer et qu'eux, ils trouvent le moyen de l'appliquer. Alors, on espère que tout ce beau monde n'avait pas prévu de prendre de vacances cette année, parce qu'a priori, c'est foutu. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est donc que les personnes concernées devraient faire entre 15 et 20 heures d'activité hebdomadaire, pardon, et que le contexte d'application reste donc à définir. Alors, vous vous moquez, mais faut pas se moquer, parce que c'est vachement plus précis que la dernière fois que je vous en ai parlé en septembre, puisque la fourchette a diminué de 5 heures, en passant de 10 à 20 heures à 15 à 20 heures. Notez, c'est plus précis. Je me moque, mais ça va être compliqué pour les fonctionnaires du ministère de trouver une manière de mettre en place du service de travail obligatoire tout en respectant le droit. On leur souhaite d'échouer, lamentablement.
Canu Info. Du mercredi.
Eh bien, à propos de bonheur au travail, une info que les moins de 20 ans ne peuvent pas comprendre. Est-ce que vous vous souvenez, pour les plus de 20 ans, de Daniel Mermet, animateur modeste et génial pendant 25 ans, de, ma foi, la seule émission de la gauche sur une grande radio nationale à grande écoute, c'est-à-dire France Inter, la bête noire des fachos, documentariste qui a formé ou inspiré à peu près tout ce que le monde de la radio et du podcast compte comme création de qualité.
Et c'était aussi, ma foi, c'est toujours le plus dégueulasse des patrons. En 2013, une enquête sur les coulisses de l'émission « Là-bas, si j'y suis » avait fait un certain bruit, surtout dans les milieux d'extrême-gauche, mais quand même, pour le coup, c'était vraiment un certain bruit au-delà de ça, surtout dans les milieux d'extrême-gauche, pardon, politicarde ou non. Le grand public avait appris à ce moment-là que les méthodes de management de l'émission étaient dignes du pire de France Télécom. Humiliation, harcèlement, exploitation de travail gratuit, des salariés poussés à la démission, à la dépression, tout ça... Et la plupart de ses salariés qui se taisent année après année, parce que Mermet, ma foi, c'était une idole, c'était notre héros, et que tout le monde sait que tout le monde savait que c'était une chance incroyable de travailler pour lui. Même si finalement il t'insultait toute la journée, s'il te payait pas tes heures, s'il te rappelait que t'étais rien et moins que rien, s'il t'engueulait comme du poisson pourri à chaque fois que lui avait fait une erreur, ça c'était en 2013. L'année suivante, en 2014, sans qu'on puisse dire si ça a un rapport ou pas avec ses révélations, peut-être que les révélations l'avaient fragilisé, en tout cas, il se fait dégager de la grille de France Inter. Il faut dire que toutes les directions de la radio et tous les gouvernements avaient rêvé de le virer. C'est la popularité de l'émission qu'il avait longtemps protégée. Et bon, c'est vrai que pour le coup, là, la popularité avait un peu pris un coup dans l'aile. Par exemple, un simple changement d'horaire au début des années 2000 avait été vécu par les auditrices et les auditeurs comme une censure et avait déclenché une vague absolument hallucinante de protestations et d'initiatives diverses pour montrer cette protestation. Mais bref, une fois que Mermet a été dégagé de la radio, il s'est pas laissé abattre. Il a créé un signe internet, un signe de reportage payant avec un abonnement. La vraie info, ça coûte quelque chose. Bon, ça, il y a des tas de sites d'info de qualité qui partent de ce principe. Et il a quand même du coup de passer de France Inter à un site internet payant, il a quand même perdu énormément de popularité, d'audience. On l'a un peu oublié, mais pas tout le monde, puisque son site existe toujours et a quand même assez de budget pour employer une douzaine de salariés. Une douzaine de salariés qui, ma foi, viennent de gagner au prud'homme contre lui. Parce que oui, le bonhomme a continué. Il a continué le harcèlement, il a continué l'humiliation, avec toujours l'argument de « t'as déjà bien de la chance de travailler ici ». Mais cette fois, en 2020, 10 de ses 12 salariés se sont mis en grève et l'ont attaqué au prud'homme, donc pour harcèlement moral, et ils et elles ont gagné. Une enquête vient d'être publiée sur le site Arrêt sur Image. Alors l'enquête a l'air pas mal, mais c'est vrai que je ne l'ai pas lue parce que, ma foi, elle est payante pour le coup. Cette histoire de Mermet, c'est une sale histoire aussi parce qu'on a été plein à être vraiment, vraiment très fan de son émission, parce que cette émission était vraiment super bien. Et que c'était incroyable d'entendre tout ça sur France Inter. Et donc, ce qui est moche, c'est que notre admiration a aidé ce système de management à perdurer. Et c'est aussi parce que tant de gens l'aimaient tellement que c'était à peu près impossible pour les salariés de parler.
Ah, ça donne envie de lire Le syndrome du patron de gauche, manuel d'Anti. Management qui est sorti il y a pas longtemps. Quelqu'un a lu?
Non.
Ah.
Mais il paraît qu'il était vachement sympa, en tout cas c'est ce que disait un certain journaliste de Fakir dans sa défense.
Ah bah oui, effectivement, qui pour le coup en 2013, quand l'enquête était sortie, s'était fendu d'un article hyper long pour dire que Mermet était quand même le meilleur des patrons et que s'il y en a qui étaient trop fragiles pour supporter de travailler à Là-bas si j'y suis, bah c'est tout bêtement que leur place n'était pas là.
En même temps, quand on est fan de Mélenchon, il y a quand même peu de chances que les grandes gueules nous...
Ouais, non mais c'est sûr, mais non mais en plus il disait que c'était de la faute à tous ces cette génération de snowflake qui a peur de tout, et finalement il avait pas tort.
Et on va s'écouter une musique, tu nous dis ce que c'est?
C'est Oba Oba Spirit et la chanson c'est El Kaïd Motorhead.
I'm sorry, 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 I'm sorry,
Petit générique parce que petite info en termes de taille. Hein, pardon. Alors, le bilan actuel du naufrage de ce matin dans la Manche est de 4 morts et de 43 personnes qui ont été secourues. Utopia dénonce la lenteur de l'intervention qui a certainement conduit à ce drame. Sous les températures glaciales de ces derniers jours, les chances de survie dans une eau très très froide sont très très courtes. Au total, l'embarcation comptait un peu moins d'une cinquantaine de personnes et sur les 43 personnes secourues, 30 se trouvaient dans l'eau. À 4h40 heure française, les gardes-côtes britanniques sont contactés pour signaler une embarcation en détresse. À ce moment-là, ils dépêchent les secours et c'est un bateau de pêche qui est le premier à secourir les personnes. En gros, le capitaine s'est fait réveiller par un marin du bateau qui lui signale que tout autour du bateau, des personnes sont à l'eau et demandent à être secourues. Au total, il y avait donc 31 personnes qu'ils ont réussi à hisser à bord en 2 heures. Réussi toutes sauf une, parce qu'au moment, au moment où ils pensaient avoir secouru tout le monde, en fait ils se sont rendu compte au moment de démarrer le bateau qu'une personne s'était accrochée à une corde et est morte noyée. Les personnes à bord lui ont dit au capitaine avoir payé un peu moins de 6000 euros pour la traversée. Dans une vidéo publiée par Sky News, on peut voir des personnes en panique se hisser sur des cordes et distinguer également un canot pneumatique noir surchargé qui prenait l'eau. L'équipage a très vite mis tout le monde sous des couettes pour tenter de les réchauffer, parce que pour l'instant le bilan actuel est quand même de 4 morts, mais on ne sait pas exactement comment vont s'en sortir les 43 personnes survivantes, parce que il y en avait quand même beaucoup qui étaient en état d'hypothermie vraiment avancé. Moi je suis pas médecin, je me rends pas compte de ce que ça peut, mais à mon avis ça peut faire des gros dégâts sur le corps. Concernant le timing de l'alerte, Utopia 56, qui donne toujours un numéro à joindre en cas de naufrage, a reçu un appel à 2h53 française, soit environ 2 heures avant que les gardes-côtes anglais soient informés du naufrage. Or, Utopia 56 avertit les gardes-côtes français qui lui ont répondu à 3h40 que les Anglais s'en chargeaient. L'association est prudente et dit que c'est pas non plus complètement impossible qu'il ne s'agisse pas de ce bateau-là, mais l'heure et la localisation laissent quand même tout de même à penser que c'est bien le même. Forcément, ce naufrage rappelle celui du 23 et 24 novembre 2021, donc il y a à peine plus d'un an, dans la Manche, où 27 personnes étaient mortes noyées. Une enquête a mis en cause les secours français et britanniques qui ont passé leur temps à savoir si les migrants buvaient la tasse côté français ou côté anglais, pour savoir à qui le tour c'était d'intervenir. Et quand là, c'est d'une manière assez cynique, mais si vous écoutez et vous lisez l'enquête du Monde à ce sujet, vous allez avoir les audios des secouristes français, et c'est assez, assez dégueulasse.
Oui, j'ai trouvé un vieux générique, alors j'ai voulu l'essayer. Et donc maintenant, on va finir avec un extrait du communiqué de la campagne unitaire contre le SNU, que je vais vous lire, voilà, simplement.
Le SNU, le service.
Et ouais, ça allait être le début du truc, c'est pour ça que je me permettais de continuer avec mes
petites... T'as vraiment niqué toutes tes intros.
Ouais, j'essaye de faire des super intros, j'essaye de... Et voilà, voilà, les gens n'aiment pas le travail bien fait ici. Le service national universel rassemble chaque année moins de volontaires que ce que le gouvernement se fixe comme objectif. Volontariat n'est sans doute pas le mot juste d'ailleurs, puisque le SNU s'adresse aux mineurs de 15 à 17 ans. Premier signal, dans le deuxième gouvernement Borne, le SNU est passé sous le contrôle conjoint du ministère de l'Éducation nationale et de celui des armées. Plusieurs informations récentes indiquent que le gouvernement relance son intention de le rendre obligatoire. Des réunions avec le président de la République se tiennent à cet effet. Le Parlement n'est pas saisi à ce jour. L'État serait sur le point de budgéter une dépense supplémentaire d'1,5 milliard d'euros chaque année pour obliger les jeunes de 15 à 17 ans à faire le SNU. Le budget des armées est de 44 milliards d'euros pour 2023, en augmentation de 25% par rapport à 2017. Dans le même temps, on ferme des écoles, des collèges, des lycées, on ne recrute pas le nombre nécessaire d'enseignantes et d'auxiliaires de vie scolaire, indispensables au bon fonctionnement du système scolaire. S'ajoutent à cela les nombreux autres besoins sociaux utiles à la collectivité qui ne sont pas satisfaits, comme la santé, le transport, la culture, etc. Les organisations et collectifs qui composent le collectif non-SNU, ils sont pleins, je ne vous fais pas la liste, appellent toutes les forces démocratiques qui refusent le SNU à exiger le retrait du projet gouvernemental et à agir unitairement pour cela.
Et on a un petit agenda. Il y a hop, comme ça, fait sur le pouce hein. Donc samedi 17 décembre, manifestation pour le retrait de la loi immigration de Darmanin. Donc voilà, ce serait même qu'il la présente même pas pour qu'il... Bon, voilà, faut qu'il y ait du monde. C'est le samedi 17 décembre à 14h30, place Bellecour. Ensuite, il y a un appel au rassemblement contre la dictature de Xi Jinping. Pareil, le 17 décembre à 14h, place des terreaux. Et ben écoutez, faites le ping-pong, déplacez-vous de l'un à l'autre. Et voilà. Ensuite, il y a une soirée à l'illégalité. C'est bien ça, hein ? Oui, à l'illégalité, tout à fait, à Villeurbanne, pour l'association IDIR Espoir et Solidarité, le vendredi 16 décembre. Voilà, c'est à 19h, et tous les bénéfices seront versés au collectif. Et on rappelle, cette association est née suite à la mort d'Idir Meder à la maison d'arrêt de Lyon-Corba le 9 septembre 2020. Depuis, ses proches luttent pour obtenir la vérité. Et quoi d'autre? Et ben si, hop, petite info canusienne, La Petite Cuillère, l'émission contre toutes les prisons, fait son retour sur Radio Canu au 102.2, bien sûr, et c'est les premiers et troisièmes jeudis de chaque mois de 20h à 21h et partout ailleurs en streaming sur radiocanu.org. Et voilà. Et voilà, c'est 19h30 et on a fini notre demi-canu info.
On a fini notre super demi-canu info. On vous souhaite une bonne soirée. On vous laisse avec le générique, puis 29 minutes de bande continue et peut-être éventuellement idée noire, on ne sait pas, ils ne sont pas encore là.
Et est-ce qu'il y a une émission la semaine prochaine ?
Non, arrête.
Non. Et ben, on vous retrouve après les défaites de Noël.
On se retrouve après les défaites de Noël. Parfait.
Allez, bon courage. A bientôt.
C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info de mercredi. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info.